Radio Tamani, voici nos informations en français.
Les populations continuent de subir la vie chère au nord du pays comme Tombouctou, Ansongo et Niafunké. Les populations s'interrogent sur cette cherté. De leur côté, les commerçants expliquent cette situation par l'insécurité. Plus de 9 400 000 personnes seront vaccinées contre la COVID-19 en faveur d'une nouvelle campagne. Le lancement de la deuxième phase de campagne de vaccination a eu lieu aujourd'hui par les autorités en charge de la santé. Objectif, lutter efficacement contre la pandémie. La solidarité intergénérationnelle crée un monde pour tous les âges est le thème de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août au Mali. Elle est commémorée dans un contexte où la jeunesse est confrontée à plusieurs défis. On en parle dans ce journal. C'était là le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsitou Touré. La cherté des produits de première nécessité n'épargne pas les régions du Nord. À Tombouctou, Niafunké ou encore Ansongo, les commerçants expliquent cette flambée des prix par l'insécurité et l'inflation économique mondiale. Ils affirment que depuis 2012 à nos jours, ils approvisionnent les populations au péril de leur vie. Ils appellent les autorités à les aider à soulager les populations. Mariam Koulibaly.
À Tombouctou, les habitants s'interrogent sur les raisons de cette cherté des denrées, alors que le pays n'est plus sous embargo. Le kilogramme de sucre est à 650 francs et le demi-kilogramme de lait est vendu à 2000 francs contre 1200 francs il y a quelques mois.
Se trouve que maintenant les produits sont plus chers qu'au moment de l'embargo. Ils disent aussi que la hausse du prix du carburant. Quand les produits sont chers, on n'a même pas des clients. Mais il faut que les gens sachent que la cherté dépend aussi du lieu d'approvisionnement.
Les grands commerçants achètent les produits pour les garder et les revendre après plus cher. Le lait et le sucre, on ne peut même pas les acheter.
L'insécurité rend toutes les routes commerciales dans Songo pratiquement impraticables. Pour des consommateurs de la localité, cette situation rend non seulement les produits chers, mais aussi introuvables sur le marché.
Là où le riz a augmenté, le savon a augmenté, et au contraire, tu vois, même les produits qui viennent de l'Algérie aussi sont devenus chers.
C'est pas question de demain, mais les produits sont devenus rares. Les produits de première nécessité tels que le riz, on n'en trouve pas puisque la route de Bamako est fermée et Niger, ça ne vient pas.
Les commerçants de Niafunké s'approvisionnent en Algérie et en Mauritanie. Ils soulignent que la situation du pays favorise cette cherté.
La plupart de nos marchandises viennent de la Mauritanie. Dans les normes, il ne devrait pas avoir une hausse.
Ces dernières années, la crise que traverse le pays impacte fortement le commerce au nord ici. Donc, il faudra patienter pour que la situation se normalise.
Pour moi, la cherté actuelle est due surtout au manque de sincérité de certains commerçants.
Le président de l'association des commerçants détaillants de Tombouctou souligne que malgré tout, certains produits sont plus abordables à Tombouctou que dans certaines localités du pays.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plusieurs terroristes interpellés ou neutralisés, des suspects arrêtés, ainsi que des motos et matériel saisis, c'est entre autres le résultat des exploits des FAMA entre juillet et août à Bamako et ailleurs. Les responsables de l'armée l'ont fait savoir ce jeudi au cours d'une conférence de presse à la DIRPA. Aïssata Diarra y était.
Selon le colonel Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA, au moins 58 terroristes ont été neutralisés courant juillet et début août. 5 à 10 terroristes sont arrêtés par jour à Bamako depuis l'attaque du camp de Kati, précise-t-il. Il affirme que ces arrestations ont pu être réalisées en grande partie grâce à la collaboration de la population. Le chef de la DIRPA a aussi évoqué la situation au sud du pays. L'attaque de Kolokani a fait 13 terroristes neutralisés, 16 autres interpellés et des matériels saisis. À cela s'ajoute l'attaque du camp de Tessit qui a fait 42 morts chez les FAMA et 37 côté terroriste. À Mondoro, Douanza, Sofara et Djalassagou, environ une quarantaine d'engins explosifs improvisés sont découverts et détruits au quotidien par les FAMA, annoncent les autorités militaires. Par ailleurs, en début de semaine, le village de Oulassagou, commune de Tori, cercle de Bankas, une charrette transportant deux jeunes garçons est monté sur un engin explosif improvisé. Les occupants sont morts sur le coup, indiquent les sources locales.
Des hommes armés continuent de semer la terreur sur le tronçon Kouri-Koutiala. Hier, ils ont brûlé un véhicule Toyota sur ce tronçon, non loin du carrefour de Ourikila. Pour le moment, les recherches sont en cours pour identifier les occupants et le propriétaire du véhicule. Le même jour, plusieurs autres usagers de la route ont été arrêtés et ont subi des contrôles par des individus armés non identifiés. Autre actualité du jour, l'arrêté du 22 février 2022 portant l'intégration de 11 agents contractuels de l'enseignement supérieur dans la fonction publique d'État continue de faire polémique. Pris par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, il a été dénoncé par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, ce qui a provoqué des réactions, notamment au sein du syndicat national de l'enseignement supérieur, SNES. Le point avec Draman Maïga.
Dans un communiqué daté du 9 août, le syndicat national de l'enseignement supérieur affirme être surpris par la demande d'annulation de cet arrêté ministériel formulé par l'UNTM. Pour le SNESUP, l'intégration des contractuels dans la fonction publique est une revendication qui date de 12 ans et a fait l'objet d'un protocole d'accord le 22 janvier 2010. Les 11 agents constituent les derniers lots de 60 contractuels parmi les 502 travailleurs contractuels qui devaient intégrer la fonction publique conformément au protocole d'accord du 18 mai 2017 entre le SNESUP et le gouvernement, poursuit le communiqué. Quelques jours plus tôt, le groupe des personnes concernées par cet arrêté ont aussi dénoncé la démarche de l'UNTM. En expliquant en ces termes, nous sommes aussi vos syndiqués. Vous devez être du côté de la justice et non dans le sentiment ou l'émotion. Fin de citation. En réponse à cette lettre, dans un communiqué publié ce vendredi, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social conclut que l'annulation des arrêtés en question ne peut non seulement se faire juridiquement, mais aussi les droits qu'ils consacrent sont des droits acquis qui ne peuvent être remis en cause. Rappelons que l'UNTM explique dans sa lettre de demande d'annulation que les intégrés n'étaient pas contractuels d'État recrutés suivant les dispositions statutaires et légales.
Je l'annonçais dans les titres, célébration ce 12 août de la Journée internationale de la jeunesse. Le thème choisi cette année est la solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Les organisations de jeunes mettent l'accent sur l'apport de la jeunesse au contexte actuel du pays. Habib Dako, président du Conseil national de la jeunesse du Mali, revient sur les défis actuels de la jeunesse malienne et de leur implication dans le processus de la paix. Il est joint au téléphone par Fatoumata Kodio.
Nous sommes dans un contexte où la jeunesse est appelée plus que jamais à fournir plus d'efforts, à jouer au consensus autour du Mali. Aujourd'hui, la principale difficulté, c'est le manque d'emploi décent. La jeunesse du Mali, qui est aux commandes, ne doit pas se plaindre, mais doit prendre son courage à deux mains et être plus entrepreneur comme elle ne l'a jamais été. Depuis un certain temps, le coût de la vie a vraiment grimpé. Tout ça contribue à plomber un peu l'élan de cette jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse est en train de commencer un projet de consolidation de la paix et de résilience communautaire des jeunes pour un retour définitif de la paix.
Renforcer l'immunité collective des Maliens pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19, c'est le but de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Son deuxième passage a été lancé ce vendredi 12 août 2022 à Bamako. Pour l'occasion, plus de 6 millions de doses de vaccins sont disponibles sur l'ensemble du territoire national, selon les autorités. Elle précise aussi qu'il est prévu de vacciner plus de 9 400 000 personnes. Mamadou Samassikou.
700 millions de francs CFA seront décaissés pour cette nouvelle campagne. Si 15,30% de recouvrement ont été atteints lors du premier passage, les autorités comptent cette fois-ci atteindre 70%. Imam Oumarou Diarra, ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés.
Nous comptons atteindre 70% des personnes vaccinées, c'est-à-dire plus de 9 millions de personnes. Aujourd'hui, vous savez, chaque occasion, elle est importante pour nous de sensibiliser, de travailler à renforcer l'humilité collective de nos compatriotes. Pour nous, même si nous pouvons atteindre les 9 millions pendant cette deuxième phase, ça nous ferait énormément plaisir.
On ne peut pas réussir ces opérations sans impliquer la communauté, affirment les responsables en charge de la santé. Selon le Centre national d'immunisation, la communication autour du premier passage a beaucoup servi dans l'adhésion de la population. Docteur Ibrahim Diarra, directeur du Centre national d'immunisation.
Ce qui est sûr aujourd'hui, ce n'est pas comme au départ où les gens étaient réticents. Les gens ont compris parce qu'ils sont en train de véhiculer le bon message, la bonne information, rassurer cette population-là et les impliquer. On ne peut pas réussir sans impliquer cette communauté. Il faut aller vers cette communauté, les expliquer, qu'ils prennent aussi la relève pour nous aider.
Cette vaccination, qui concerne aussi les personnes âgées de 12 ans et plus, se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2022, indiquent les autorités. La situation cumulée du début de la maladie à coronavirus à nos jours est de 31 237 cas confirmés, 30 414 guéris, soit un peu plus de 97% de guérison, et 739 décès, soit un taux de mortalité de moins de 3%.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Nous recevons à présent Mouamadou Touré pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mouamadou.
Bonsoir Amsetou Gogo Touré.
Alors, qu'est-ce qu'on va aborder dans le Grand Dialogue de ce soir?
Élections et réformes institutionnelles, où en sommes-nous? Ce sera le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont Alaï Bokoum de la Convention pour le Mali, Amadou Aïa, secrétaire général adjoint du parti CODEM et porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements politiques, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, et Dr Mahamadou Konaté du Conseil Donko pour la gouvernance et la sécurité. Je rappelle qu'on a tenté d'avoir un représentant du gouvernement, notamment le ministère de la Refondation, mais nos tentatives sont restées vaines.
Merci Mahamadou et bon débat. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Et c'est ce qui referme donc cette édition. Merci pour votre constante fidélité. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine Toutes les femmes du Mali. Le magazine Toutes les femmes du Mali d'aujourd'hui s'intéresse aux femmes transformatrices des produits agroforestiers. Plus d'une vingtaine d'entre elles, venues des régions de Koutiala et Son, exposent leurs produits depuis hier au parc national de Bamako. Ces femmes disent avoir tiré leur épingle du jeu grâce à cette transformation. C'est une initiative d'Oxfam. Le magazine Toutes les femmes du Mali est présenté par Oumar Waïgalo.
Des jus de mangue, des tamarins, celis d'erronier et des pains de chêne sont entre autres des produits exposés par ces femmes transformatrices. Elles sont venues de Koutiala, Yoroso et Tominya. Madame Kone Mamou Dambélé est une membre de la coopérative des transformatrices de produits forestiers. Elle nous explique comment elle transforme les pains de chêne.
On part cueillir les pains de singe qu'on écrase pour extraire les graines. On les pile pour recueillir la poudre et c'est ce qu'on appelle poudre de pain de singe. Les feuilles de baobab sont aussi utilisées pour les sauces.
Pour faciliter la conservation et l'écoulement des produits, les femmes ont construit des magasins de stockage à Yoroso et Koutiala grâce à Oxfam. En plus, elles disposent des matériels qui leur permettent de conserver les produits pendant longtemps. Djilinka Malé, membre de la coopérative des transformatrices de produits forestiers de Pensouba dans le cercle de Koutiala.
Nous arrivons à écouler nos produits. C'est la conservation qui n'est pas facile. Aujourd'hui, nous disposons des équipements qui nous permettent de bien conserver le didégué, farine de maïs mélangée à du miel.
Cependant, ces femmes rurales reconnaissent que les prix de leurs produits sont un peu exorbitants. Elles justifient cette cherté par l'accessibilité des matières primaires. Djilinka Malé.
C'est normal que ça soit cher. On ne peut pas avoir des produits de bonne qualité si on n'y met pas le paquet. Le miel est cher chez nous. Un litre de miel coûte de nos jours 3000 francs CFA. Nous achetons cher le maïs, le miel et l'arachide. Avec tous ces produits, sans oublier les sachets plastiques comme emballage, le produit coûtera cher, sinon on ne s'en sortira pas.
Cette première édition du Forum national de l'agroforesterie est organisée par l'Oxfam dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Reverdure l'Afrique.